cours de théologie naturelle du 28 octobre 1983, Rimmon, la création.
Après avoir beaucoup discuté, longuement discuté, pour savoir s'il valait mieux faire le cours de création ou le cours des idéologies athées, on s'est arrêté sur le point de vue de la création. Je le ferai cette année-ci, non pas en regardant l'analyse de saint Thomas comme on l'avait fait à Fribourg. Je ferai une petite analyse de saint Thomas, ne vous inquiétez pas dans la topique, c'est bien évident. Mais on essaiera de faire ce cours sur la création d'une façon plus métaphysique. Oui, c'est un cours de métaphysique, de philosophie première. Ce n'est plus de la métaphysique, hein, faisons attention. Ce n'est plus de la métaphysique. C'est la philosophie première. Tout de suite ça, c'est la philosophie première, la sagesse. Et c'est très important. Parce qu'on n'a plus la même méthode tout à fait que dans la métaphysique. Dans notre langage, nous sommes tellement habitués que nous avons cours de métaphysique. Oui, oui, en réalité, il faudrait dire cours de sagesse philosophique. On ne fait plus jamais un cours de sagesse philosophique. Donc on est d'une originalité extraordinaire ici. De faire un cours de sagesse philosophique. Ça ne se fait plus hors commerce. La métaphysique aussi, un peu moins. Parce qu'il y a des derniers témoins d'un âge révolu. Mais la sagesse philosophique, ça ne se fait plus du tout. Hein. Cherchez partout, vous ne le verrez pas. On est un peu fou en faisant ça. Mais on croit qu'il peut y avoir des exigences de l'intelligence qui demeurent et qui sont. De sorte que c'est un cours qui est très difficile parce que je ne peux pas vous renvoyer à beaucoup d'études. Je peux envoyer quand même la petite étude que j'ai faite et elle est partielle. Hein. J'ai tout à fait conscience qu'elle est partielle. Je voudrais, si j'avais eu le temps, j'aurais fait un livre entier sur la création. Ça vaudrait la peine au point de vue philosophique. De sorte que je me servirai et je vous renverrai à cette étude de l'être à Dieu et sur le problème de la création. Mais je voudrais, entre nous, dans la mesure où on le peut, l'amplifier le plus qu'on peut, c'est-à-dire aller le plus loin possible dans cette recherche de sagesse philosophique. Je pose tout de suite la situation de ce problème avant d'entrer dans la topique. Parce qu'une topique est nécessaire, elle sera courte du reste, parce qu'au fond, elle est courte. Très importante avec saint Thomas, mais elle est courte. Voyez bien ce qui oriente toute la recherche de la philosophie première. Tout ce qui oriente le problème de la philosophie première, depuis le début jusqu'à son terme. La philosophie première commence par l'admiration sur le jugement d'existence. La stupéfaction de la grandeur du jugement d'existence. Ceci est. La stupéfaction de Parménide, c'est la déesse qui lui dit « il est ». Mais quand je vois un caillou, je peux avoir la stupeur de Parménide et de dire « il est ». Évidemment, ce n'est pas ce qui se passe, parce que je marche dessus. Mais si je le regarde avec attention, il est. C'est important, vous voyez, au fond, dans la stupeur de Parménide, il y a à la fois un point de départ et un terme. C'est ça qui est extraordinaire, l'alpha et l'oméga. Et c'est ça qui était très étonnant dans le point de vue de la philosophie première, c'est que notre intelligence va s'exercer d'une manière quasi divine. C'est pour ça que la plupart du temps, on est essoufflé au point de vue de la philosophie première. Ce n'est plus l'intelligence humaine liée à tout ce que représente l'homme, c'est le dépassement de l'homme. Et quand vous regardez l'homme sous le point de vue de l'être, ah oui, il est dans l'œcuménisme le plus absolu, puisque tout ce qui est autour de lui existe. Et il existe au milieu de tous les autres. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de stupéfaction très, très, très grande. Je crois que c'est ça, l'intuition de l'être de Maritain. C'est pas juste de dire intuition de l'être, mais il y a quelque chose de juste de dire la stupéfaction, l'étonnement du jugement d'existence. Et puis, il y a un étonnement extraordinaire quand mon intelligence est capable de dire « il est ». Et quand je me regarde, il est. Et quand je regarde mon voisin, il est. C'est quand même curieux. Alors, il est dans la diversité et dans l'unité. Dans une diversité radicale, puisque quand je dis il est, c'est toute son existence, c'est tout ce qu'il est. Et en même temps, dans quelque chose de profondément un, puisque toutes ces réalités existent. Donc la métaphysique commence par ça, c'est très important. Il faut tout le temps revenir à ce commencement, hein, parce que plus vous aurez cette admiration spirituelle vis-à-vis de « il est », ceci est, et il est, je prends « il est » parce que c'est Parménide, ceci est, c'est... je regarde, mais il faut bloquer les deux, hein, parce que ceci est, vous risquez tout le temps de regarder ceci. La vache. Alors n'ayez pas trop d'admiration métaphysique. Il faut passer son chemin. Tandis que si vous découvrez il est, alors vous dépassez la vache. Et vous avez le droit à ce moment-là d'être en état d'admiration. Il est. Que ce soit la vache ou que ce soit vous. Là, ça revient au même. Vous avez quelque chose de commun avec la vache. C'est que il est. Alors vous cette espèce d'admiration, étonnement. Il y a bien une sorte d'intuition qui est justement de saisir l'unité à l'intérieur de la diversité. De ces multiples expériences, ces multiples jugements d'existence que vous portez. Il est. Alors, vous voyez, quand on dit intuition de l'être, en réalité, ce n'est pas intuition, c'est la diversité des jugements d'existence dont je saisis le quelque chose de commun. Et c'est ce quelque chose de commun qui m'intéresse et pas la diversité. Et c'est ce quelque chose de commun que je regarde au-delà de la diversité. Il est. Bon, la métaphysique commence par là. Donc nous l'avons vu, il n'existe pas. La métaphysique se termine par quoi? Après toutes tes analyses. Je ne les reprends pas, toutes les analyses. Les grandes arêtes métaphysiques de la philosophie première, découverte de l'ousia, découverte de l'acte. La métaphysique se termine comme philosophie première, qui est la science de ce qui est en tant qu'être, en se posant la question, l'homme, la personne humaine, est-elle ce qui est par excellence? Dans l'ordre de l'existé, ultime. Y a-t-il, autrement dit, un dépassement dans l'ordre de l'être par rapport à l'homme? Il y a un dépassement dans l'ordre de la compréhension intellectuelle, dans l'ordre de l'intelligibilité. L'être possède une intelligibilité plus grande que l'homme. C'est sûr. Puisque dans l'intelligibilité de l'être, il y a la vache. Dans l'intelligibilité de l'homme, la vache n'y est pas. Hein, c'est facile à comprendre. Du côté de l'extension. Du côté de l'intensité, c'est plus difficile à saisir. Et pourtant, c'est vrai. Quand je dis « il est », il y a une compréhension plus profonde de la réalité que quand je dis « l'homme ». Quand je dis « il est », il y a une compréhension plus profonde de la réalité que quand je dis « l'esprit ». C'est ça que les modernes ne comprennent absolument pas. Mais ce n'est pas commode à comprendre, du reste. Il faut redécouvrir, si vous voulez, quelque chose de tout à fait fondamental dans le point de vue de l'intelligence, pour comprendre que lorsque je dis « il est », que je le pense, hein, il y a une compréhension plus profonde de la réalité même de la réalité qui est l'homme. Que lorsque je dis l'homme est un être spirituel, ou quand je dis le cogito, je cogite, je pense, j'ai une compréhension qui va plus loin, qui pénètre plus avant dans la réalité, enfin, du côté de la connaissance. Mais cette compréhension correspond-elle à une réalité? Y a-t-il vraiment une source première à l'égard de toutes les réalités que je peux constater, que je peux expérimenter, spécialement par rapport à l'homme? Alors c'est là où se pose la dernière question de toute la philosophie première comme science de ce qui est en tant qu'être. Et je découvre à partir de là, difficilement, en me tenant sur la fine pointe hein, de l'intelligence et de mes pieds, en découvrant, parce que ça ne dure pas, hein. Ça ne peut pas rester indéfiniment ça, je ne peux pas indéfiniment vivre de la découverte métaphysique, philosophique de l'être premier. Je le fais par moments. C'est trop fatigant. Et je vois à ce moment-là qu'il y a bien 5 voies qui me permettent d'être au seuil d'une réalité qui s'impose à moi, une réalité nécessaire, qui est première dans son être. Et parce qu'elle est première dans son être, je peux dire cette réalité première, c'est ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Mais les traditions religieuses sont assumées après. Mais les traditions religieuses ne me conduisent pas directement à la découverte de l'identité de l'être premier. Mais elles sont là pour donner le nom à cet être premier. Mais les traditions religieuses donnent le nom, Dieu. Le philosophe ne donne pas le nom. Le philosophe, lui, il découvre quelque chose d'ultime, de premier, qu'il ne nomme pas. Il est premier. Et je le nomme, il est Dieu, dans les traditions religieuses. Une fois que le philosophe a fait cette découverte, il va réfléchir sur la manière d'exister cet être premier. C'est ce qu'on appelle le problème des attributs de Dieu. Il ne faut pas employer attribut, mais on l'emploie. Vous voyez, c'est l'influence de la logique, ça. En réalité, c'est la contemplation que nous pouvons avoir de l'être premier. Pouvons dire de lui. Peut-être qu'il me transcende complètement, qu'il me dépasse complètement, qu'est-ce que je peux dire de lui? Et très vite, je me pose la question, mais là, on est dans l'ordre de la sagesse. Hein. Alors, parce que dans l'ordre de la sagesse, vous pourriez me dire, ah, attention, il y a un problème avant, j'accepterai. Obligé de dire ça. Il y a un problème avant, c'est de savoir quelle est la relation de cet être premier de moi-même. Quelle relation existe-t-il entre le « il est » que je suis et le « il est » de cet être premier nécessaire que je pose? Alors je pourrais dire que dès que je le découvre, je me pose cette question-là. C'est normal, c'est l'aller et le retour. Et l'aller et le retour, normalement, ordinairement, on peut faire une pause. Parce que la découverte est tellement grande qu'on veut vraiment la voir pleinement et totalement. Et je crois que pour pouvoir répondre au retour, il faut déjà savoir un tout petit peu ce qu'est il est. Celui qu'on appelle Dieu. Vous allez le voir tout de suite du reste. C'est facile à comprendre. C'est pour ça que normalement, je crois qu'il faut d'abord découvrir la manière d'être de cet être premier, absolument simple, parfait, bon, infini, éternel. Je peux dire tout ça. Pour le justifier, pour l'exprimer, ça met plus longtemps, mais je peux le dire tout de suite. Oui, c'est le gros problème que nous faisons à Saint-Jean-d'Arc. Les attributs de Dieu, cette année-ci, on fait ça. Et puis je peux me poser la question, quelle est la relation qui existe entre cet être premier que nous appelons Dieu et moi-même? Je rejoins là un problème classique. Au niveau des traditions religieuses, le problème de la création. Vous voyez bien, je ne pose pas tout de suite le problème de la création. Je pourrais le poser tout de suite. Je pourrais dire, je me trouve en face de traditions religieuses. Je suis un croyant. Je me trouve en face de la Bible qui me parle du Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien me poser le problème comme ça immédiatement. Vous savez, la Bible est un livre merveilleux pour m'éveiller à la métaphysique, à la philosophie première et à la sagesse. Alors, je pourrais très bien prendre ça. C'est ce qu'on devrait faire. On devrait dire, nous prenons la Bible parce que c'est notre livre, alors voyons, dans la Bible, on parle de quelque chose de tout à fait particulier. On parle que Dieu fait, comme si Dieu travaillait. Mais il travaille avec sa parole, lui. Un travail très particulier, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et pourtant, il y a des gestes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a-t-il des mains? Dieu a-t-il un corps? Et je peux me poser toutes ces questions-là. Toutes ces questions-là ont été posées théologiquement. Dieu a-t-il un corps? Dieu a-t-il des mains? Je vois progressivement qu'on dit que la création à partir de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je me pose la question immédiatement. Alors à ce moment-là, je dirais, pour répondre à cela, il faut savoir ce qu'est cet être premier, autant que je peux le savoir. Comment je ne peux pas répondre? Moi, je me connais un peu, mais lui. Or, pour savoir la relation qui existe entre nous deux, pour comprendre ce que représente ce faire de Dieu, ce facere de Dieu, le fait qu'il a réalisé quelque chose, il faut comprendre ce qu'il est. Operatio sequitur esse. Le vieil adage, hein? L'opération suit l'existence d'un être. Si je ne connais pas l'existence d'un être, je ne peux pas savoir son opération. Je peux la décrire, mais je ne la connais pas profondément. Je peux décrire ce que Dieu a réalisé, mais je ne connais pas ce qu'est cette opération. Donc il faut connaître son essai autant que je le peux. Alors pour connaître l'essai de Dieu, toute la métaphysique est là. Et j'essaie de comprendre sa simplicité. Vous voyez, je reviens sur ce qu'on a appelé les manières d'exister de l'être premier. Oui, que je parte, oui, c'est ça qui est intéressant à voir, que je parte du début de la métaphysique, de la philosophie première, ou que je parte de la Bible, le problème revient à ceci, c'est que pour essayer de comprendre la relation qui existe entre l'être premier et moi-même, ce problème que la tradition religieuse appelle la création, il faut connaître ce que c'est que Dieu. Autant que possible. Parce que c'est pas moi qui m'ai fabriqué. Ce n'est pas les réalités que je vois qui m'ont donné l'être. Puisque nous sommes tous, dans l'ordre des lettres, limités. Et nous sommes tous, dans l'ordre de l'être, au même niveau. Je ne peux pas dire que celui qui est plus âgé que moi, il a un droit particulier dans l'ordre de l'être. Parce que c'est uniquement plus âgé, c'est une question de temps, et la question du temps n'est pas la substance de l'être. Donc, rien à voir au point de vue de l'être. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on existe. Et on existe indépendamment des autres. On existe en nous-mêmes. Donc, il y a un problème par rapport à l'être, qui va dépasser toutes les réalités que je vois, qui remonte à celui que les traditions religieuses appellent le Créateur. Alors qu'est-ce que c'est que le Créateur? Pour savoir ce que c'est que le Créateur, il faut savoir son action de Créateur. Parce qu'il est Créateur dans la mesure où il agit. Il est Créateur dans la mesure où il réalise quelque chose qui est dénommé créature. Et lui est dénommé Créateur. C'est une dénomination, Créateur et créature. Et je ne sais rien du tout ce que représente le Créateur et la créature si je ne connais pas la créature, si je ne connais pas l'action du Créateur. Donc vous voyez, c'est important de soulever les deux problèmes. Je peux poser le problème au point de vue métaphysique, au point de vue sagesse philosophique, à partir de la Bible. Et pour certains, c'est comme ça qu'on doit le poser. Et c'est très intéressant, et on vous le posera comme ça. Les gens qui enseignent la catéchèse, ils vous poseront le problème de cette manière-là. Alors on leur répondra, oh la création, problème métaphysique, n'en parlez pas, il vaut mieux pas en parler parce que vous n'arriverez jamais à répondre aux questions très intelligentes que poseront les enfants. Parce que les enfants sont très éveillés quand il s'agit de la création. Plus les grandes personnes. Les enfants, oui. Alors n'en parlez pas. C'est pour ça qu'on met entre parenthèses. J'ai assisté moi-même à un congrès de théologie à Rome du temps de Paul VI. Tous les théologiens étaient d'accord pour dire il ne faut plus parler de la création. Parce que c'est un problème métaphysique. C'est un problème métaphysique, on n'en parle plus. Alors, regardez les philosophes, ne parlez pas de la création, c'est un problème religieux. Ce qui fait que ça tombe dans la table, dans la boîte aux oublis. On ne parle plus de la création. Et ça, c'est vrai, c'est un fait. On ne parle plus de la création. On parle de la rédemption, mais on ne parle plus de la création. On a raison de parler de la rédemption. Mais peut-on parler de la rédemption sérieusement sans voir la création? Si la rédemption est une recréation. Alors vous voyez, c'est au fond très important ce que nous touchons là, parce que nous touchons un problème central au niveau théologique, au niveau de l'écriture, puisque ça commence par ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu a fait le ciel et la terre. Dire, ça m'est égal, je ne veux pas comprendre. Alors vous ne comprendrez plus rien à l'écriture. Si vous ne regardez pas cette première parole, vous ne comprenez plus rien à l'écriture. Dieu a fait le ciel et la terre. Et c'est montré qu'il l'a fait de lui-même selon un ordre, selon un amour. Donc, je peux remonter au problème de la sagesse philosophique à partir de l'écriture, où je peux le découvrir dans le progrès même de ma philosophie. Vous voyez bien les deux voies. Alors, je me trouve en face de ce problème qui, au point de vue sagesse philosophique, s'exprime de cette manière. Et c'est très important de comprendre comment ça s'exprime. Quelle est la relation qui existe entre ces deux êtres que j'affirme exister, moi-même, l'univers, peu importe, mon voisin, et puis l'être premier que j'ai découvert, que j'appelle Dieu. Quelle est cette relation? Est-ce que je peux dire quelque chose de cette relation? De cette relation invisible, hein, dont je n'ai pas l'expérience. Si j'avais l'expérience, ce serait très bien, je la décrirais. Les savants essaient de décrire. Alors ils inventent des choses extraordinaires pour décrire ce point de départ extraordinaire de la création, avec une musique particulière qui serait la musique du point de départ de la création, tu vois. On n'a pas d'expérience de cette relation. Au niveau philosophique, au niveau humain, le croyant adhère à l'acte du Dieu créateur. Et parce que le croyant adhère à l'acte du Dieu créateur, le croyant, lui, peut avoir expérience de ce qu'est la création. Il peut, si le Saint-Esprit le veut. Pas par lui-même, hein, tous les mystiques, les grands mystiques ont toujours montré que le fondement de toute expérience mystique était le sens de cette radicale dépendance à l'égard de Dieu. Vous voyez, on est comme entièrement saisi par cette présence d'immensité. Ou notre être imbibitur, expression de Jean de Saint-Thomas, imbibitur, elle est, notre être est complètement imbibé par l'acte créateur de Dieu, comme l'éponge dans l'océan. Comparaison. Beaucoup plus que l'éponge dans l'océan. Parce que l'éponge reste extérieure à l'océan, alors que je ne suis pas extérieur à l'acte créateur de Dieu. C'est ça qui est la chose inouïe. Je ne suis pas extérieur. Je suis totalement dépendant. Et je suis le fruit de cet acte créateur. Donc vous voyez qu'au plan philosophique, il s'agit de saisir quelle est cette relation de dépendance entre moi-même en tant que j'existe et l'être premier. Et comment puis-je préciser cette relation que les traditions religieuses appellent création? C'est ça le problème de la création selon les problèmes, le langage des traditions religieuses. Alors ça, je crois que vous pouvez bien le voir. Donc, c'est étudier une relation. C'est ça qui est très curieux. C'est étudier une relation. Une relation d'un type unique, puisque c'est une relation qui, d'une certaine manière, fonde toute ma métaphysique de la substance et de l'acte. Alors que d'habitude, la relation présuppose la substance, ici c'est l'inverse. Tout est pris dans un sens inverse. Comme le petit gosse qui regarde le paysage à travers ses jambes. Tout est inverse. Exactement la même chose. J'ai essayé d'étudier la métaphysique de telle manière pour analyser, puis je pose l'existence de Dieu, je pose l'existence d'un être premier, j'essaie d'étudier qu'est-ce que c'est que cette relation qui existe entre l'être premier et moi, et puis je vois que cette relation est une. Tout repose là-dessus, parce que je n'existe, si Dieu n'avait pas créé, je ne serais pas là. Ah, c'est une relation qui existe entre Dieu et moi, c'est une relation. Donc cette relation est fondement, source de toute la métaphysique de la substance, de la réalité substantielle des êtres, et de l'actualité des êtres. Quelque chose d'extraordinaire. Alors est-ce que ça va changer complètement ma métaphysique? Est-ce que la création va bouleverser complètement ma métaphysique en disant que ma métaphysique, elle est fausse, elle est imparfaite? Elle est l'Ancien Testament, hein? Imparfait. Et puis le Nouveau Testament, c'est à partir de que j'ai saisi l'être premier et que j'ai saisi l'acte premier de Dieu. C'est vrai, j'ai deux visions tout à fait différentes parce que la première vision, elle vient de moi et je remonte jusqu'à Dieu. L'autre vision, je me mets en Dieu, et puis je regarde l'autre. Et puis tout est changé. C'est vrai, quand je me regarde à partir de Dieu, c'est pas tout à fait le même regard que quand je me regarde proprement. Et le petit cosmonaute qui regarde la Terre à partir de la Lune n'a pas le même regard de la Terre que celui qui est sur la Terre et qui regarde la Lune. C'est tout à fait différent. Et bien, c'est la même chose, vous voyez. Un petit exemple, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre l'aller et le retour. La différence, c'est qu'ici, pas besoin de trop de technique, et ça coûte moins cher. Mais c'est quelque chose encore plus bouleversant, parce que mon intelligence part de la réalité, découvre l'être premier. Et une fois que je découvre l'être premier, j'essaie de comprendre la relation qui existe avec moi. Et donc, j'ai un regard sur moi-même, tout autre, à partir de Dieu sur moi. Et je vois que là, en effet, cette relation de la création est quelque chose d'étonnant. Est-ce que ça va me changer quelque chose, ça ne me changera rien du tout. Puisque je serai obligé de reconnaître qu'il y a un aller, un retour, totalement différent. Et ça ne coûte pas le même prix. C'est tout à fait autre chose. Et que si je confonds cet aller et ce retour, je vais faire des confusions invraisemblables. Et que ces confusions existent dans une certaine philosophie qu'on appelle l'ontologisme. Et l'ontologie, c'est justement d'avoir confondu l'aller et le retour. Les gens distraits, quelquefois, vous savez, ils confondent l'aller et le retour. Hein? Alors, ils font pas attention, puis ils s'aperçoivent au retour qu'ils se sont confondus. Bon. Alors, évidemment, il y a quelqu'un qui contrôle. Ah, ça va pas. Puis alors, vous avez toutes des explications possibles. Si vous trouvez quelqu'un de très intelligent, il comprendra que vous avez pu être distrait, et surtout si vous avez la pièce à conviction. Mais autrement, c'est ennuyeux de confondre l'aller et le retour. Et au point de vue de la pensée, c'est plus grave que tout, parce que toutes les confusions viennent de là. Et l'ontologisme a naissance à l'athéisme. Donc, confondre l'aller et le retour, c'est terrible. C'est faire le lit de l'athéisme moderne. Je crois qu'il naît à partir de là. Mais donc on touche à un problème qui, philosophiquement, est très très important. Je ne peux pas me contenter de l'aller. Je ne peux pas. Il faut le retour. Et pour pouvoir faire ce retour avec intelligence, il faut nécessairement essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette relation. Autrement, je confondrais. Puisque je suis allé, c'est la même chose au retour. Pas besoin de le faire. Oui. Le problème de la création se pose au retour. Et le problème de la découverte de l'être premier se pose à l'aller. Et c'est pas du tout la même chose. D'un côté, c'est une démonstration a posteriori qui me fait découvrir l'être premier. De l'autre côté, c'est essayer de comprendre une relation qui existe entre cet être premier et puis moi-même. Et puis toutes les autres réalités. C'est découvrir cette relation. C'est intéressant ce point de vue-là. Alors évidemment, pour que le retour soit parfaitement compris, il faut comprendre l'aller. Alors tous ceux qui n'ont pas encore fait l'aller, je leur demande de faire confiance, d'être suspendus, sachant très bien que c'est possible pour l'intelligence humaine d'aller jusqu'au bout et de pouvoir regarder l'être premier. Alors on suppose ça, on dit oui c'est possible. Et pour le chrétien, c'est facile, puisque l'Église nous dit que c'est possible. Donc c'est possible. Tout est garanti. C'est possible, on peut le faire. Et maintenant, nous regardons le retour. Bon. Premier problème au point de vue topique. Ça, j'y tiens beaucoup. C'est très intéressant à faire. Je l'ai fait une fois à Fribourg. Regardez toutes les traditions religieuses sur la création. Alors quelqu'un qui s'intéresse aux traditions religieuses pourrait faire cette petite étude, et s'il fait une étude intelligente, il pourrait la montrer. Et alors on pourrait à ce moment-là faire un petit opuscule. C'est très intéressant de faire. Quelles sont les traditions religieuses de la création? Vous savez qu'elles sont très très extraordinaires, hein? Il y en a beaucoup, beaucoup. Et dedans on devrait mettre la Bible. Parce que pour le philosophe, c'est une tradition religieuse. Une belle tradition religieuse, parce que c'est la plus purifiée. C'est très curieux que l'Esprit Saint aime bien la logique. Pas totalement, hein. Il maintient un mythe. Et donc, c'est pas entièrement logique, hein. C'est pas entièrement logique, heureusement. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est pas de la logique, hein. C'est une logique... C'est de la sagesse. C'est vrai, c'est de la sagesse. Sagesse religieuse. Mais il y a des traditions religieuses qui sont beaucoup plus extraordinaires, hein, et qui sont magnifiques. Il y en a une que je vous ai citée toujours, parce que c'est la plus ancienne, c'est pour ça que j'aime bien, parce qu'il faut les donner dans l'ordre de l'ancienneté, les traditions religieuses. Il y en a une très ancienne, c'est la tradition religieuse colombienne sur l'origine, sur la création. Alors vous savez bien ce qu'on dit. C'est curieux que le canard enchaîné n'ait pas encore pris ça comme ça. Au point de départ, au commencement, était le canard et le soleil. Et c'est là où on voit que c'est pas le bête et le canard et le soleil. Et l'illogisme continue, n'est-ce pas? Le soleil dit au canard, il n'est pas bon pour toi de rester seul. Mais on retrouve les paroles, c'est très curieux, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve certaines paroles qui sont jusque dans la révélation. Évidemment, à la place du canard, c'est l'homme. C'est une différence, hein, mais enfin, ça revient au même, hein, au point de vue de l'être. Donc, il n'est pas bon pour toi d'être seul. Tu as des palmes à tes pattes. Plonge dans l'eau. Hein, on avait dit qu'au début, on ne parlait pas de l'eau. C'est fin de l'illogisme. Plonge dans l'eau. Tu reprendras la terre. Et à partir de là, je ferai l'homme. C'est cru. Je vous dis, c'est très intéressant. Quelqu'un qui s'intéresse à ça, aux traditions religieuses, ça vaut la peine, vous savez. Ça vaut la peine. On pourrait les faire au réfectoire. C'est digne d'une lecture de réfectoire. Parce que c'est quelque chose qui nous fait penser. Et qui nous montre des choses importantes, intéressantes. On ne peut pas fouiller, les historiens l'ont fait. Mais les historiens donnent ça. Alors il faudrait rassembler toutes ces grandes traditions, toutes, de l'Orient et de l'Occident. C'est un premier travail philosophique qu'on doit faire quand il s'agit de la création. Ça, je crois qu'on doit le faire. Ça ne nous apportera pas grand-chose, hein, de nouveau. Parce que ce sont des mythes. Ce que nous cherchons, c'est le logos. Ce que nous cherchons, c'est l'intelligibilité des choses. Mais c'est intéressant comme contexte. Et puis c'est surtout intéressant pour montrer les inquiétudes des hommes. Au fond, les hommes cherchent d'où ils viennent. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Beaucoup plus d'où ils viennent. Et au fond, c'est la grande question. D'où je viens? D'où l'univers vient? C'était la première question philosophique. Vous voyez, quand vous regardez les premiers physiciens, les physiciens de Millet, ils cherchent quelle est l'origine, d'où? Alors ils disent l'eau. Et vous retrouvez presque toujours l'eau dans les mythes de l'origine. Et dans ce mythe colombien, l'eau est présupposée. On ne dit pas qu'elle est créée. Elle est comme présupposée. Où c'est la matière. Et c'est plus beau, je trouve, l'eau. J'aime mieux l'eau, comme grand présupposé. La matière vient limiter l'eau. Et c'est pas la terre qui limite l'eau. Hein. Sauf dans certains pays, mais autrement, c'est la terre qui limite l'eau. C'est très curieux, ça. C'est l'eau qui est première. Elle est fondamentale. Découvrir ces recherches de l'origine. Et c'est vrai que ces mythes nous mettent en présence que l'interrogation fondamentale, première selon l'ordre génétique, c'est de savoir l'origine. Vous voyez, c'est l'intérêt de ça, c'est de montrer l'importance de l'origine, d'où ça sort, d'où ça vient. C'est la grande interrogation primordiale. Vous voyez, la finalité n'est pas la première interrogation selon l'ordre génétique. Elle est l'ultime interrogation. Mais la première interrogation, c'est pour ça que c'est toujours très important de voir que quand on est un peu fatigué, on revient toujours à l'interrogation de l'origine. Quand on est fatigué. Une culture fatiguée, comme la nôtre, est une culture qui ne regarde plus que le fondement. C'est la seule chose qu'elle regarde. Elle ne peut plus regarder la finalité. Il faut une culture jeune pour regarder la finalité. Il faut un rajeunissement. Mais dès qu'on est fatigué, c'est un fait. Quoi. Dès que vous êtes fatigué, vous avez bien d'avoir un fauteuil pour vous asseoir. Il y a ce fondement. Non. Tandis que quand vous êtes jeune, vous pouvez piquer l'orientation vers la finalité. Alors, c'est intéressant de voir que tous ces grands mythes religieux interrogent sur l'origine. Alors, ensuite, quand je regarde ce point de vue-là, je me pose la question, en philosophie grecque, à quel moment a-t-on posé le problème de la création? Il est bien évident qu'Hésiode transpose le problème de l'origine dans les dieux. Mais Hésiode ne se pose pas le problème de la création. Il est évident que Parménide ne se pose pas le problème de la création. Il est. Et de lui, rien d'autre ne vient. Parce que le devenir, c'est la Genesis. Il y a une coupure complète entre il est et la Genesis. Et c'est pour ça, vous voyez, que le premier moment philosophique de la découverte du Logos n'est comme un mur entre il est, ça c'est Parménide, et puis la Genesis. Les générations sont multiples, sont tout le temps multiples. Et il est et un. Et donc le problème philosophique de la création, le logos de la création, se heurte en premier lieu devant cette difficulté. Ça c'est net. Regarde. Au point de vue de la philosophie grecque. La première difficulté que je vois, c'est ça. Peut-on passer de l'un au multiple? Et vous savez bien, Plotin, au terme de la philosophie grecque, donc de Parménide à Plotin, Plotin, au terme de la philosophie grecque, dit le grand problème, l'unique problème, le problème sur lequel on revient tout le temps, et le problème le plus difficile, c'est de voir comment de l'un est né. Alors on peut dire que toute la philosophie grecque est enveloppée par ce problème et par cette interrogation. Au fond, la philosophie grecque s'est heurtée au problème des traditions religieuses de la création. C'est heurté là comme si le logos n'arrivait pas à dépasser ce mur infranchissable. C'est très beau, du reste. Ce serait une manière très intéressante de regarder la philosophie grecque. Manière, je ne crois pas que ça a été fait de cette manière-là. C'est intéressant, c'est une perspective. C'est pas la seule, c'est bien évident. Mais c'est peut-être la perspective la plus fondamentale, puisque nous voyons Parménide et nous voyons Plotin. Et que Parménide et Plotin, tous les deux, se heurtent devant ce problème. Alors on peut dire que Plotin a répondu à sa manière, oui, il a essayé de donner une réponse, c'est vrai. Tandis que Parménide ne l'a pas donné. Et Parménide, lui, au contraire, affirmait que il est de il est, il ne peut pas y avoir les générations. Il ne peut pas y avoir les générations. Impossible. Et les générations sont dans le problème du multiple. C'est dans le problème de l'opinion. Tandis qu'ici, je suis dans le problème de la vérité. Il y a une opposition entre les deux. Héraclite constate, mais ne parle pas du tout, du passage. Avec ce que nous avons d'Héraclite, c'est toujours la même chose. C'est intéressant, je crois, de voir que, de fait, le problème de l'opposition entre l'un et le multiple touche le problème de la création. Le problème de l'être et du devenir, le devenir, touche le problème de la création et se heurte devant la possibilité de répondre.